À l'heure où les intelligences artificielles prennent de plus en plus de place dans les discussions et dans les recherches, on peut se demander si nous ne sommes pas en train de vivre un grand bouleversement en remettant en question la notion même d'intelligence. Des premiers tests d'intelligence jusqu'aux recherches actuelles sur les gènes, les neurones artificiels ou la cartographie du cerveau, nous assistons à de véritables métamorphoses et avec mes invités, nous allons voir comment ce concept d'intelligence a évolué au gré des progrès de la recherche et des grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. C'est le dossier de l'émission avec mes invités, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, du nouveau sur le front de l'allergie à l'arachide.
Oui Mathieu, si vous aussi vous gonflez quand vous mangez des cacahuètes, sachez que certaines bactéries peuvent vous aider. Des scientifiques australiens proposent une méthode de désensibilisation à base de probiotiques. On commence ses travaux avec la microbiologiste Catherine Daniel.
Vous me direz si ça marche pour les poils de chat.
Ah, on lui demandera.
Et puis on retrouvera le docteur Dupin dans la dernière partie de l'émission pour sa chronique de santé polémique consacrée à Levothyrox, ce médicament dont les malades de la thyroïde dénoncent les effets secondaires. Et c'est Fanny Boyon qui réalise l'émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'évolution du concept d'intelligence, ce sera tout à l'heure dans le dossier avec mes invités que j'accueille, la philosophe Catherine Malabou et le chercheur en intelligence artificielle Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour à
Bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
Catherine Malabou, ça bouge beaucoup dans le champ de l'intelligence actuellement au point de devoir redéfinir le concept même.
Oui, ça bouge énormément avec les dernières avancées de l'intelligence artificielle qu'on croyait bloquée à son stade dit faible. Et en fait, depuis environ une décennie, on s'aperçoit qu'on passe du faible au fort. Et donc, il y a énormément de questions. Ça suscite énormément de questions.
Ouais, mais ça bouge depuis longtemps. Hein, et depuis,
ça bouge depuis plus d'un siècle.
C'est ça. Et c'est ce qu'on va voir avec vous. On fera un petit retour en arrière. Et puis, évidemment, on s'arrêtera aujourd'hui sur ce qui se passe. Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que l'intelligence pourrait devenir totalement artificielle dans quelques décennies?
Disons, l'intelligence, elle peut pas devenir artificielle, mais l'intelligence artificielle, en revanche, a une réalité. Mais l'intelligence de l'intelligence artificielle, ça n'est pas toute l'intelligence, c'est une ruse, justement. C'est la fin, d'ailleurs, du livre de Catherine Malabou, elle parle de métis, c'est exactement ça.
L'intelligence de l'intelligence artificielle, donc on va en parler dans un instant avec vous, on se retrouve avec les auditeurs. Dites-nous ce que vous pensez de cette évolution, avec vos messages, toutes vos questions, sur le site de La Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, un nouvel espoir dans la lutte contre les allergies grâce aux bactéries.
Une guêpe, ne bougez surtout pas.
Comment ?
Une guêpe, je suis allergique, ne bougez pas.
Si elle me pique, je meurs.
Hein ?
Puisque je vous le dis, en vacances une fois j'étais piqué, failli crever. Je gonfle, puis je me mets étouffé.
On va attendre combien de temps comme ça ?
Bougez pas, faut pas la folie, je vous dis.
J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie. Perrin, si elle fait sa nuit ?
Faites pas rire. Si je reste foutu.
Voilà, Pierre-Richard Gérard Depardieu, la chèvre en 1981. On ne va pas parler de l'allergie aux guêpes cet après-midi, mais aux cacahuètes avec une nouvelle méthode de désensibilisation à l'aide donc de bactéries testées avec succès en Australie avec une étude parue pour en parler dans la revue The Lancet. Axel Villard, on va décortiquer justement cette publication avec notre invitée, la microbiologiste Catherine Daniel.
Bonjour à vous Catherine Daniel.
Oui, bonjour, bonjour à vous tous.
Vous êtes chercheur au Centre d'infection et d'immunité pour l'Institut Pasteur de Lille. Vous avez scruté de près cette étude australienne. Alors pourquoi est-ce que c'est une étape importante dans la lutte contre les allergies ?
Alors, c'est vrai que l'allergie, c'est une réaction exagérée du système immunitaire contre une substance qui est a priori inoffensive. Et cette allergie est vraiment en constante augmentation, surtout dans nos pays industrialisés. Mmh. Et il n'y a pas vraiment de traitement actuel pour traiter cette allergie. Donc il y a beaucoup de travail de recherche qui est nécessaire pour trouver de nouveaux traitements.
Mais la désensibilisation, on en entend parler depuis un moment, ça ne marche pas vraiment ?
Alors la désensibilisation, ce n'est pas suffisant. Et ça ne marche pas toujours. C'est vrai que ça marche pour un moment assez court. Mais si on veut désensibiliser pendant très longtemps, donc pendant des mois, des années, c'est pas encore assez efficace.
Donc, Catherine
Daniel, ça peut aussi avoir pas mal d'effets secondaires.
La solution serait peut-être dans les bactéries pour nous aider à combattre les allergies, donc les cacahuètes peut-être pour commencer. Expliquez-nous un petit peu la méthode employée par les scientifiques et l'idée qui se cache derrière ces travaux.
Alors, les scientifiques ont utilisé une bactérie lactique, donc un lactobacille, Lactobacillus rhamnosus, qui est une bactérie qui est isolée en fait au départ de l'intestin d'un homme, donc une bactérie commensale du microbiote intestinal de l'homme, qui a été utilisée en combinaison avec l'allergène de la cacahuète pour traiter des enfants directement par la voie orale, donc une voie muqueuse qui est préférable par rapport aux injections qu'on peut faire par voie sanguine.
Ça veut dire que ces enfants ont mangé des petits extraits de cacahuètes en même temps que cette bactérie pendant tout le traitement?
Voilà, c'est ça. Pendant 18 mois, donc ils ont pris ces bactéries probiotiques qui sont totalement innocuitaires, en fait, qui n'ont aucun effet négatif sur l'organisme, en parallèle avec ces petits extraits de cacahuètes par voie orale, donc comme on mange un yaourt tous les jours pendant 18 mois.
Et qu'est-ce qui se passe alors au bout de 4 ans? Ces enfants ne sont plus allergiques à la cacahuète?
Alors donc ils ont, dans cette étude, ils avaient un groupe de patients enfants qui étaient allergiques à la cacahuète, un groupe de patients enfants qui n'étaient pas allergiques, et c'est vrai qu'au bout de 4 ans, ils ont montré que la plupart de ces enfants, alors pas 100% des enfants, mais la plupart de ces enfants n'étaient plus allergiques à la cacahuète.
Donc le principe c'est quoi? C'est de rééduquer l'organisme justement à la présence de l'allergène?
Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que la période de l'enfance est très importante pour éduquer le système immunitaire, pour le protéger le futur adulte contre des allergies, des infections. Donc c'est vrai que cette période de l'enfance, souvent entre 1 et 5 ans, est très importante pour en effet faire maturer ce système immunitaire qui est immature lorsque l'on est. Donc c'est le principe, c'est de rééduquer en effet ce système immunitaire vers un système immunitaire qui va être combatif quand l'enfant sera plus grand.
Mais alors concrètement, quelle est l'action de la bactérie dans cette rééducation?
Alors donc c'est vrai que cette étude elle est très intéressante et très nouvelle parce qu'elle est sur du long terme. Par contre, pour les mécanismes exacts qui expliquent, qui sont sous-jacents aux effets protecteurs de cette bactérie, on les connaît pas tous. Alors on en connaît déjà, on sait que ça a un effet bénéfique sur les cellules du système immunitaire. Donc ça permet d'avoir de réguler les effets néfastes du système qui va s'emballer. Et donc les bactéries probiotiques vont avoir des effets régulateurs sur ces cellules immunes. Elles peuvent aussi jouer sur les bactéries du microbiote, donc directement dans l'intestin. Elles peuvent aussi interagir avec des cellules directement dans l'intestin. Après, il y a beaucoup de recherches nécessaires pour expliquer comment, pourquoi cette bactérie a un effet protecteur dans ces enfants qui sont allergiques.
Et est-ce qu'on sait si cette méthode peut s'appliquer à d'autres allergies? Mathieu parlait du chat tout à l'heure.
Oui, ça m'intéresse à titre personnel. Si vous avez une bactérie magique, oui. Je suis preneur. Ah oui, en plus?
Alors, je pense que là, bon, c'est vrai que cette étude, elle porte sur l'allergie à l'arachide, mais ça peut tout à fait être généralisé à d'autres types d'allergies, que ce soit respiratoire, alimentaire, cutané, parce qu'il y a d'autres études, les premières études qui ont montré que les bactéries probiotiques ont un effet protecteur dans l'allergie, c'était des études qui portaient sur l'eczéma atopique. Donc ça a très bien marché. Donc ça marche. Après les allergies respiratoires, tout ça, c'est à faire, mais ça peut marcher pour tous les types d'allergies.
Ouais. Catherine Daniel, pourquoi est-ce que ça a été testé uniquement chez les enfants, alors précisément, et pas chez l'adulte?
Je pense que c'est ça en fait. Je pense que comme je l'expliquais, l'enfance c'est une période de la vie qui est très importante.
Oui.
Et on sait que l'enfance c'est la période pendant laquelle on va pouvoir rééduquer le système immunitaire, parce que quand on est adulte, c'est beaucoup plus difficile de le faire. C'est presque trop tard. Donc c'est pendant cette petite période de l'enfance qu'on va pouvoir rééquilibrer le système immunitaire, éduquer le système immunitaire, le faire maturer, pour que l'enfant, quand il deviendra adulte, il soit protégé. C'est vraiment, l'enfance est une période importante. Donc je pense que c'est pour cela aussi que c'est une étude qui est très importante, parce qu'elle a touché directement les enfants.
Et ça touche beaucoup de monde, hein, cette allergie à l'arachide, hein, Axel, je crois que c'est 1%
en pourcent,
de la population.
Oui,
on voit d'ailleurs sur les produits, les traces présentes, possibles en tout cas, d'arachide. Et c'est assez prometteur. Merci beaucoup Catherine Daniel pour vos explications. Avec donc cette étude qui vient de paraître dans la revue The Lancet. Et merci Axel.
Et à demain.
À demain. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, quelque chose d'étrange en train de changer le sexe des crocodiles du Costa Rica. Connaître le sexe d'un crocodile dans la nature, c'est d'abord une mission difficile. Il faut faire preuve de courage, attraper la bête et le palper à l'endroit du cloaque. Imaginez donc l'audace qu'il a fallu à l'équipe du parc naturel de Palo Verde qui publie cette triste nouvelle. Les crocodiles de la région sont en train de changer de sexe, les mâles surpassant les femelles à plus de 4 pour 1. Les chercheurs suspectent les pisciculteurs des alentours qui nourrissent leurs poissons avec des hormones dans le but de transformer les fragiles femelles poissons en mâles bien plus gros et plus rentables. Le problème, c'est que les crocodiles femelles contaminés par ces hormones sont en train de se transformer à leur tour en mâles, avec des conséquences pour toute la chaîne alimentaire et écologique de la région, de cette région du Costa Rica. L'Agence fédérale de santé américaine, la FDA, a autorisé hier la mise sur le marché du premier traitement de thérapie génique sur le sol américain. Le Kymriah permet de soigner une forme agressive de leucémie chez l'enfant. Développé et commercialisé par la firme Novartis, il consiste à prélever des cellules immunitaires chez le patient, les modifier génétiquement pour qu'elles attaquent la leucémie et ensuite le réinjecter le temps du traitement. Le traitement testé en phase clinique sur un groupe de 63 enfants a permis une rémission de 83% d'entre eux, mais engendre quand même de sévères effets secondaires. Et puis pour terminer, une biopile qui rivalise avec les piles à combustible. Une pile à combustible convertit classiquement la combustion d'un gaz, l'hydrogène, en électricité. Même si elle n'émet pas de gaz à effet de serre, elle consomme des quantités non négligeables de métaux rares et coûteux pour catalyser la réaction. Eh bien, des chercheurs marseillais ont développé une nouvelle génération de piles à combustible qui remplace ces métaux par des molécules bactériennes servant naturellement à dégrader l'hydrogène. Décidément, on fait beaucoup de choses avec les bactéries aujourd'hui. Le résultat est donc une biopile renouvelable dont il démontre l'efficacité aujourd'hui dans une publication et qui pourra donc à terme rivaliser avec les piles à combustible classiques. Allez, les métamorphoses de l'intelligence, notre dossier dans un instant.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil. Les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes. Très loin des sirènes italiennes, tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, on nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombre parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sous le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Extrait de son dernier album 5 minutes au paradis, c'était Croisière méditerranéenne et la voix de Bernard Lavilliers.
La tête au carré sur France Inter.
Où se trouve la frontière aujourd'hui entre l'intelligence naturelle, on pourrait dire, et l'intelligence artificielle? Comment évolue ce concept d'intelligence au milieu de tous ces changements? Eh bien, c'est le dossier, la discussion avec mes invités, Catherine Malabou et Jean-Gabriel Ganassia. Catherine Malabou, vous êtes philosophe, professeur à l'université de Kingston en Grande-Bretagne et puis à Irvine en Californie. Et vous publiez aujourd'hui même au PUF, aux Presses universitaires de France, les métamorphoses de l'intelligence. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes chercheur en intelligence artificielle au laboratoire informatique de Paris 6, professeur à Pierre et Marie Curie et président du comité d'éthique du CNRS. Vous avez publié cette année au Seuil le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Il y a plein de questions effectivement qui se posent là-dessus aussi, des questions d'éthique en particulier. Les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec les questions et les messages. On va essayer de définir ensemble ce qu'est aussi l'intelligence, voir comment elle a évolué au fil du temps. Jean-Gabriel Ganassia, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ouvrages parlent justement d'intelligence aujourd'hui et d'évolution, et cette notion, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure avec Catherine Malabou, elle est très discutée aujourd'hui, vraiment, ou pas? Une remise en cause beaucoup, même de ce concept.
Beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'intelligence artificielle parce que ça joue un rôle extrêmement important dans la société contemporaine, dans l'économie actuelle. C'est lié au développement du numérique. La question de l'intelligence n'est peut-être pas toujours vraiment posée. Je trouve que c'est le grand mérite du livre de Catherine Malabou que d'essayer de rappeler quelles ont été les différentes acceptions de cette notion d'intelligence. Et effectivement, ça a des sens extrêmement différents. Hein, et dans le cas de l'intelligence artificielle, par exemple, ça a un sens assez précis, hein, mais qui n'est pas celui qu'on croit. Hein, c'est-à-dire qu'on imagine souvent qu'il s'agit d'une espèce d'être de science-fiction qui va être, avec les ressources de la technologie, un double de nous-mêmes. Or qu'en réalité, je crois que c'est autre chose. C'est une façon justement d'approcher l'intelligence avec cette question qui est ouverte, qui est bien sûr ce qu'est l'intelligence, les différentes formes. Hein, et justement, l'intelligence artificielle, si je permets de revenir là-dessus, c'est de ne pas avoir défini, de ne pas avoir délimité a priori l'intelligence, hein, et de s'être dit qu'avec une machine, on pouvait l'approcher. Hein. C'est un aspect dynamique. Et ça se voit dès le début, avant même d'ailleurs que le terme d'intelligence artificielle ne soit inventé, avec d'un côté la cybernétique, et puis surtout avec Alan Turing, qui, dans son article Princeps sur l'intelligence des machines, envisage différentes formes d'intelligence. Et justement, il est tout à fait en accord d'ailleurs avec ce que Catherine vous dira, elle le cite tout à la fin un tout petit peu, c'est que c'est lié à l'apprentissage. Il prend différentes métaphores, dont certaines sont biologiques, d'autres psychologiques, d'autres évolutionnaires. Et d'ailleurs, il a un petit lien avec Piaget, qu'il a connu, enfin, je dirais, c'est la même époque. Donc
ce qui illustre bien finalement aussi, Catherine Malabou, la plasticité aussi, qui caractérise bien quand même aussi l'intelligence. Il faut essayer d'en donner quelques définitions aujourd'hui, ça peut être ça, non?
Alors, le problème de l'intelligence, c'est qu'il ne faut surtout pas commencer par sa définition. C'est-à-dire que dès le début, c'est-à-dire dès l'apparition du concept dans son sens technique, avec la psychologie expérimentale, il y a une chose qu'on cesse de se demander, c'est qu'est-ce que l'intelligence? Parce que
c'est tellement protéiforme que c'est impossible
de
donner une définition.
Oui, je pense que même si ici on s'amusait entre nous à dire qu'est-ce que c'est pour vous,
chacun aurait sa
propre définition. Donc, on a le verbe qu'on a substitué à être. Qu'est-ce qu'être intelligent? C'est mesurer. Bon, si on ne peut pas savoir ce qu'est l'intelligence, on peut peut-être la mesurer.
Ouais.
Et donc, si on mesure l'intelligence, qu'est-ce qu'on mesure? On va mesurer les facultés cognitives, en fait, la capacité à réaliser certaines opérations. Et dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a encore ce sens, parce que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies visant à simuler ces opérations cognitives. Donc on garde quand même, il y a quand même un radical qui est toujours identique, qui est cet ensemble d'opérations élémentaires, mais plastiques quand même, parce que ces opérations évoluent au cours du temps. Voilà. Parce que, par exemple, la façon dont on lit évolue durant une vie, les centres d'intérêt évoluent, on va développer certaines facultés au détriment d'autres, on devient pianiste, on devient mathématicien, etc. Donc le cerveau accommode ensuite et dose l'énergie entre ces différentes formes d'opérations.
Alors pour étudier justement ce que c'est le cœur de votre livre, ces transformations, ces métamorphoses du concept même d'intelligence, vous faites appel à beaucoup de disciplines scientifiques, il faut voyager dans différentes contrées pour tenter d'en
le paradoxe,
dessiner les contours.
Oui, parce que bon, alors moi je suis philosophe, c'est ma spécialité, mais on s'aperçoit qu'en philosophie c'est une notion maudite.
Pourquoi ?
Les philosophes parlent de l'esprit, ils parlent de l'intellect, ils parlent de l'entendement, mais pas de l'intelligence qui pour eux, quand elle apparaît au XIXe siècle, donc, introduit dans l'esprit la notion d'inégalité. Quand les psychologues comme Binet entreprennent de définir, de mesurer l'intelligence, forcément, si on mesure l'intelligence, on va trouver des inégalités. Et ça, les philosophes ne le supportent pas. L'intelligence est universelle, c'est pas une faculté psychologique. Bon. Donc il a fallu sortir de la philosophie et aller voir.
Donc philosophe et psychologue, pas du tout d'accord sur ces idées-là. Il y a vraiment une bataille, une crise de l'intelligence d'ailleurs, que vous décrivez.
Entre Bergson et Binet, ensuite entre les philosophes contemporains et les psychologues. Ouais. Alors donc il a fallu que j'aille voir du côté de la psychologie, de la biologie et puis des technologies.
Et de la biologie, alors qu'est-ce qu'on trouve dans la biologie pour parler de l'intelligence?
Alors la biologie, ce qui a correspondu un peu au test de mesure en psychologie, c'est la recherche du fameux gène de l'intelligence pendant quand même assez longtemps.
Ça a commencé quand, ça, cette recherche du gène?
Ça a commencé
quand on a biologisé, justement.
Biologisé l'intelligence. Ouais. Il y a eu un premier moment avec Galton, c'était la découverte de l'eugénisme.
Ouais. Alors Galton, c'est le cousin de Darwin. C'est lui qui, justement, a essayé de poser un déterminisme à l'intelligence des génies, par exemple.
Il a dit on doit pouvoir sélectionner, de la même manière qu'il y a une sélection naturelle des espèces. Il pourrait y avoir une sélection artificielle des humains, on pourrait sélectionner les plus intelligents, c'est-à-dire ceux qui sont doués de ce qu'il appelle le génie, qu'on peut mesurer par des tests, et c'est ce qui a donné de génie, on est passé à eugénisme.
Ouais.
Bon, Galton est venu avant, la découverte de la génétique, mais la génétique a prolongé cette recherche par la recherche de ce gène qu'on n'a d'ailleurs jamais trouvé, que ça doit dater ça des années 40. Enfin.
Ouais, alors ça, moi je trouve ça très intéressant, parce que quand on cherche un gène, comme ça a été le cas à l'époque de l'intelligence, les scientifiques ont passé combien de temps en fait là-dessus?
Je crois que ça s'est interrompu seulement avec le séquençage du génome en 2003. Ça a été une très très longue histoire.
Mais vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on peut se tromper pendant très longtemps aussi dans les recherches parfois. Et essayer d'aller dans des endroits où finalement on ne trouve aucune réponse.
Il a fallu attendre le séquençage du génome pour qu'on s'aperçoive que en fait très peu de nos gènes étaient codants.
C'est ça. Donc le gène de l'intelligence, pof, l'idée s'envolait d'elle-même. Mais il a fallu longtemps.
Il a fallu très longtemps.
Jean-Gabriel Ganassia.
Alors deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'intelligence qu'on ne savait pas définir, on a essayé de la mesurer. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a apprécié un certain nombre de facultés cognitives. Mais justement, comme vous l'avez dit, c'est au pluriel. Et cette mesure du QI, en réalité, est une mesure de différentes choses. Alors, il y a eu un débat qui est constant, et ça je crois qu'il est important de le souligner, entre des psychologues qui pensaient qu'il y avait un facteur G, qu'il y avait une intelligence, qu'il y avait une résultante, et puis d'autres qui pensaient qu'il y avait différentes composantes de l'intelligence, qu'il y avait d'ailleurs éventuellement même différents QI, une intelligence spatiale, une intelligence perceptive, une intelligence verbale, etc. Et ça c'est très ancien ce débat-là, et on le sait d'ailleurs, les gens qui mesurent le QI savent parfaitement qu'on mesure des choses différentes. En réalité, c'est une mesure statistique d'aptitude cognitive.
Et limitée aussi, non ?
Et tout à fait limitée. Alors, c'est une question compliquée parce que vous voyez, quand Binet introduit ses tests, il a un objectif pratique.
On est en quelle année à peu près ?
Alors, on est au début du siècle, 1905, c'est ça. Il répond à une commande du ministère de l'Éducation. Il pense qu'on va mieux éduquer les gens parce qu'on connaît reconnaîtra leurs aptitudes. Oui. Ensuite, c'est repris effectivement de façon très idéologique aux États-Unis, hein, comme vous le dites. Mais ensuite, il y a des évolutions. Alors, l'idée de Binet, lui, c'est la notion d'âge mental. Donc, bien sûr, ça n'est pas lié à la génétique, l'âge mental, hein, puisque l'idée, c'est que justement, chacun va ensuite, éventuellement, hein, un élève va avoir un âge mental inférieur ou supérieur par rapport à la moyenne des enfants de son âge, qui devrait être un prédicteur de ses futures aptitudes. Donc, effectivement, c'est lié à l'inégalité, mais c'est pas seulement lié à des facteurs génétiques. Et puis ensuite, il y a eu d'autres applications, hein, qui seront liées aux différentes aptitudes, hein, et qui peuvent avoir des applications dans l'éducation.
Mais comme critère, par exemple, que donne Galton, qu'est-ce que quelqu'un d'intelligent ? Il dit, c'est quelqu'un qui a son article nécrologique dans le Times. Après sa mort. Voilà le critère.
C'est un critère d'intelligence.
C'est le critère. Ouais. Mais sur
les gènes, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas terminé aujourd'hui. Nick Bockstrom, à l'université d'Oxford, vous explique qu'on va pouvoir anticiper et conduire une espèce d'eugénisme. Alors, il dit c'est un eugénisme positif parce qu'on tue pas les gens, mais en fait, on va regarder le génome, et à partir du génome, parmi les embryons, il y en a certains qu'on va pouvoir faire vivre et d'autres qu'on va au contraire faire disparaître. Et il dit comme ça, c'est une pression de sélection qui va augmenter l'intelligence d'une population.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque, je vous les transmets dans un instant. Juste après Mac DeMarco, My Old Man.
L'intelligence se définit par le développement et non pas par un critère absolu. Il n'y a pas de limite inférieure, autrement dit, à l'intelligence. On ne peut pas situer un jour, un mois, une année où l'intelligence apparaît dans le développement de l'enfant. L'intelligence ne peut se définir que par son processus. Elle est un processus d'organisation qui englobe l'ensemble des fonctions cognitives et qui tend vers une certaine forme d'équilibre, qui marche vers certaines formes d'équilibre terminal. L'intelligence embrasse donc toutes les fonctions cognitives jusqu'à l'achèvement d'une logique, mais on ne peut la définir que par son orientation ou sa direction.
Voilà, c'était la voix de Jean Piaget, biologiste et psychologue, en 1951, pour parler donc de ce concept d'intelligence avec mes invités Catherine Malabou et Jean-Gabriel Ganassia. Catherine Malabou, il y a plein de choses qui sont dites dans ces propos-là de Piaget à l'instant. Oui. Est-ce que c'est pas une façon de définir la plasticité, justement, et l'épigénétique aussi, avec l'influence de tout l'environnement sur l'être?
La thèse de Piaget, portée sur l'épigénèse, il a dit le développement de l'intelligence est épigénétique, ouais, et pas génétique, c'est-à-dire que c'est un processus d'organisation, comme il le dit. Et là, une autre phrase aussi que j'aime beaucoup, il dit « L'intelligence n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. »
Exactement, oui.
Donc, ce qui coupe court à toutes les affirmations d'innéisme, l'intelligence, c'est la manière dont on se construit. Il dit la même manière qu'on construit son corps, son organisme, on construit son intelligence.
Mais c'est une vision tellement ouverte sur les choses. Hein.
C'est absolument époustouflant. J'ai relu Piaget avec un plaisir immense.
Et on l'écoute aussi parce que là, c'est extrait justement de conférences radiophoniques et il se dit des choses extrêmement intéressantes autour, entre autres, de ce concept. Jean-Gabriel Ganassia, un commentaire peut-être?
Oui, sur Piaget, parce que c'est un psychologue qui a été un tout petit peu dénigré, ignoré ces dernières années. Et il a joué un rôle important, hein, bon, bien sûr en psychologie, mais surtout en intelligence artificielle.
Quel rôle?
Et en particulier des gens comme Seymour Papert, qui a été le compagnon de Marvin Minsky, hein, était un piagétien. Hein, il a développé des technologies pour aider les enfants à apprendre. Hein, par exemple,
qui sont les gens dont vous nous parlez?
Logo. Alors, Marvin Minsky, c'est un scientifique qui est décédé d'ailleurs il y a un an, je crois, et qui a été l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est une discipline qui est née en 1956 et qui a été inventée par deux jeunes gens à l'époque qui avaient 28 ans, John McCarthy et Marvin Minsky. Et ensuite, bien sûr, d'autres se sont venus s'associer à ces gens-là. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'ils avaient dès le départ cette idée qu'on pourrait utiliser les machines pour simuler chacune de ces fonctions cognitives qu'évoque Piaget ici. Donc dès le départ, il y a cette idée de pluralité. L'intelligence n'est pas une chose, c'est l'ensemble des fonctions. Et donc, bien sûr, on peut mieux les comprendre en essayant de les simuler. Et aussi, bien sûr, essayer de développer les technologies qui permettent d'apprendre, hein, un peu cette notion de plasticité. Hein. Même si ça reste extrêmement mystérieux et difficile à faire, en tout cas, c'était le projet. C'est un horizon.
C'est toujours les projets qui fascinent les scientifiques du monde entier. Hein. Quand on veut modéliser le cerveau, par exemple, c'est aussi cette même intention, Catherine Malabou. Qui se cache derrière, non?
Oui, le problème que pose Piaget, c'est le suivant. Toutes les opérations sont données a priori, hein, les tables de multiplication, les additions, les soustractions, leurs règles ne changent pas. Comment se fait-il qu'on ait à les apprendre, hein? Et donc, pour Piaget, l'âge critique, c'est évidemment l'enfance. Qu'est-ce que l'enfance? Et la place de la psychologie, c'est précisément de faire le pont entre les données a priori des opérations et la manière dont on les apprend a posteriori. Il dit qu'est-ce que c'est cet entre-deux? Et il dit cet entre-deux, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui va adapter quelque chose qu'on sait déjà à quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et je pense que dans l'intelligence artificielle, ce type de question est totalement pertinent.
Les questions des auditeurs, il y en a beaucoup. Oui. Viron d'abord qui demande, le cerveau humain, est-ce qu'il a réellement évolué depuis la préhistoire?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la fameuse, bon, le cortex cérébral, ce qu'on appelle la matière grise. Bien sûr, ça a changé de forme. Et ce qu'on appelle d'ailleurs le cerveau préhistorique, hein, les très anciennes zones du cerveau, se sont retrouvées pliées au fond.
Reléguées, voilà, dans les circonvolutions.
Voilà, absolument, absolument. C'est
Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, Piaget justement établissait un parallèle entre différents types d'évolution, l'évolution de l'espèce, l'évolution historique aussi, et puis l'évolution de l'individu. Hein, et bien évidemment, en intelligence artificielle, on s'intéresse à tous ces aspects. Hein, c'est l'intelligence, justement, de façon générale. Elle n'est pas nécessairement ancrée sur un sujet particulier. Hein. Et il y a eu des spécialistes d'intelligence artificielle qui se sont intéressés à Piaget, qui ont modélisé certains aspects de peu piégé. En particulier, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Douglas Lennart qui s'intéressait à la découverte scientifique et qui essayait de reconstituer la construction de concepts progressivement. Donc il partait de concepts pré-numériques comme des sacs, des séquences hein, qui avaient été dégagées par Piaget, et puis il essayait de voir si une machine était capable de concevoir des concepts beaucoup plus abstraits comme les notions de nombre, nombre premier, etc. Et d'ailleurs, il est arrivé, il a conçu un système qui s'appelait AM, Automated Mathematics, qui en même temps en anglais veut dire âme, je suis.
Pauline demande, l'intelligence est-elle innée ou se développe-t-elle grâce à l'éducation? Ben, ça prolonge un peu une discussion autour de
Piaget. La question, comme je disais au départ, c'est, on ne peut pas se demander qu'est-ce qu'être intelligent. En revanche, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut le devenir? C'est ça la question. Et pour moi, et donc non, ce n'est pas inné, même si évidemment, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de dispositions, on va dire, hein, ce que les psychologues appellent des dispositions, mais sans l'éducation, sans la...
Ouais. Donc il y a de l'espoir toujours finalement?
Ah, je le pense profondément.
C'est un grand champ d'espoir.
Je pense que ça serait intéressant aussi, je l'évoque très rapidement, mais la question de la bêtise. Est-ce que la bêtise est un état stationnaire
ou évolutif?
Ou évolutif.
Ben, c'est comme l'intelligence, au fond, non?
Absolument. Hein,
dans l'autre sens. Maxime nous dit, l'IRM, est-ce qu'elle permet de visualiser les bases cérébrales de l'intelligence, Jean-Gabriel Ganassia? Alors, qu'est-ce que l'image nous montre?
Bien sûr, toutes les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale nous ont permis de beaucoup mieux comprendre ce qui se produisait dans le cerveau. Alors, elle ne montre pas tout, mais elle montre des corrélats qui sont liés aux opérations cognitives. Par exemple, Stanislas Dehaene a beaucoup travaillé sur le calcul et il a montré avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale que le calcul, c'est pas une seule chose, mais que selon qu'on calcule sur des grands nombres et sur des petits nombres, sur des nombres continus ou discontinus, on a des façons différentes de procéder. C'est passionnant, justement. Hein, les sciences cognitives comme l'intelligence artificielle nous permettent d'ouvrir un tout petit peu cette boîte extrêmement complexe qui est notre cerveau. Et donc, c'est une grande aventure scientifique, je crois, qui, grâce à l'intelligence artificielle, est en train de s'ouvrir. Et contrairement donc à ce qu'un certain nombre de gens nous laissent entendre, il ne s'agit pas de fermer, de dire voilà, ça y est, on va reproduire tout le cerveau et toute l'intelligence avec une machine. Mais non, c'est effectivement un processus très lent et extrêmement passionnant, compliqué, qu'il faut essayer de découvrir avec les technologies actuelles.
Stanislas Dehaene, élève de Jean-Pierre Changeux, qui est devenu lui-même un grand professeur, Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, un des grands noms de la neurobiologie, qui lui aussi a montré que finalement, tout au long de la vie, le cerveau connaissait des modifications et des changements liés à l'expérience.
Voilà, un grand penseur de l'épigénétique cérébrale, Changeux. Et il a dit même, il faut abandonner totalement cette notion de programme génétique. Ouais. Donc lui refuse de se servir de cette notion pour bien insister sur le fait que... Il y a une sorte d'ouverture plastique du devenir de l'intelligence.
Rien n'est déterminé, tout se transforme justement, et c'est cette idée de ce concept qui a beaucoup évolué. On poursuit notre discussion dans un instant, et d'autres questions pour vous sur franceinter.fr et le hashtag l'attaque.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, il vous prend tout d'un coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. À quoi ça sert l'amour? Pourtant on dit souvent décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel, tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant tes sembles déchirants, des mains serra pour toi un souvenir de joie.
À quoi ça sert l'amour, Marcio Faracco à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Catherine Malabou, philosophe, avec ce livre « Les métamorphoses de l'intelligence » qui sort aujourd'hui même aux presses universitaires de France. Et puis Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle, avec ce livre « Le mythe de la singularité ». Au seuil, faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Gilles d'ailleurs demande sur franceinter.fr, dans la série Westworld, il y a un des personnages qui dit qu'une machine sera intelligente, non quand elle réussira le test de Turing, mais quand elle fera semblant de le rater. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Gabriel Ganassia ?
Ah ouais, il y a eu beaucoup d'interprétations du test de Turing. Il faut savoir que dans le test de Turing, déjà, une machine n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'elle fait des erreurs. En tout cas, Turing a donné des exemples de dialogues avec une machine dans lesquels on fait faire un calcul simple et la machine fait exprès de prendre du temps, qui est plus de temps que met un homme, et de faire une erreur qui serait peut-être l'erreur qu'un homme ferait en faisant ce calcul.
Ouais. Catherine Malabou, justement, cet aspect homme-machine et cette confrontation, cette opposition justement qu'on présente souvent. Vous dites qu'il faut abandonner tout de suite cette idée.
Ça ne me paraît pas très fructueux, non.
Ouais, c'est un faux débat.
Pour répondre à ce que disait l'auditeur, il y a un autre film qui est intéressant qui est Ex Machina, où cette fois c'est une intelligence artificielle qui soumet un homme au test de Turing.
Ouais.
Donc il y a un renversement des rôles. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que notre intelligence, on va dire naturelle, est toujours faite d'automatismes. Mmh. Donc, être intelligent, c'est avoir des automatismes. Et réciproquement, une machine peut être intelligente. Donc, je crois qu'on peut faire dialoguer ces notions. Je pense que s'engager dans la perspective d'une compétition, est-ce que les machines prendront notre place, c'est faire de la mauvaise science-fiction. Je vois pas où ça mène. Et ça me paraît pas très... Ouais.
C'est pas très sympa pour le sous-titre du livre de Jean-Gabriel Ganassia. Faut-il craindre l'intelligence artificielle?
Il parle la singularité, c'est ce livre de Kurzweil.
Ouais,
c'est quelque chose de très particulier.
Ouais, non, mais c'est juste cette question. Est-ce qu'il faut craindre justement l'intelligence artificielle? Parce que c'est une question qui revient sans cesse aujourd'hui, et à juste titre d'ailleurs.
Et bien sûr, je pense que l'intelligence artificielle, dans la mesure où ça transforme la société, recèle un certain nombre de dangers qu'il faut apprécier à leur juste mesure. Mais en même temps, ces dangers ne correspondent pas aux peurs que des autorités du monde contemporain comme Kurzweil, comme Elon Musk, comme Bill Gates nous font miroiter. Hein. Et donc justement, hein, je crois qu'il faut faire attention à ce que la peur ne masque pas les dangers. Ouais. Donc il faut bien regarder les
dangers. En quoi ça transforme justement la société aujourd'hui? Est-ce qu'on en prend vraiment la mesure?
Alors je ne suis pas certain qu'on en prenne tout le temps la mesure exacte. Disons qu'on en prend un peu la mesure parce qu'on se rend compte que le numérique est partout. Mais la mesure exacte, c'est que l'économie n'est plus la même aujourd'hui. Et que les grandes entreprises, bien sûr, risquent à tout instant de perdre leur marché. Que l'automobile, par exemple, peut-être qu'un jour, les dispositifs électroniques, les ordinateurs, auront une importance très grande. Et à ce moment-là, les maîtres un peu de ce secteur des transports seront les spécialistes du numérique. De même dans la banque, jusqu'à présent, vous avez payé avec des cartes bancaires. Peut-être qu'un jour, vous allez payer avec vos téléphones portables. Et à ce moment-là, moment-là, les grands acteurs dans le domaine bancaire deviendront les grands opérateurs téléphoniques ou alors les fabricants de téléphones mobiles. Et donc, c'est en ce sens-là où je crois que ça change vraiment la société. De même, du point de vue politique, je crois que les frontières, aujourd'hui, deviennent poreuses. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait une coextension de l'État et du territoire. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas avec le numérique. Donc, tout ça change beaucoup. Je crois qu'il y a quand même quelque chose que j'ai lu dans le livre de Catherine Malabou qui me semble tout à fait relevé de la question qu'on pose ici. Ces cerveaux et ordinateurs sont dans un rapport de spéculation réciproque. Mmh. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, les ordinateurs nous aident à être plus intelligents. Ouais. Il ne s'agit pas d'être soumis aux ordinateurs, mais au contraire, de voir comment on peut développer nos capacités avec les machines.
C'est une façon aussi de laisser une place à l'homme, parce que parfois, on a l'impression qu'à force de parler d'intelligence artificielle et de machine, l'homme s'efface au profit de ces technologies.
Il y a un vrai problème. Hein. Bergson disait « Oh, mais on ne pourra jamais mesurer l'intensité hein. ». C'est-à-dire que les machines produiront de la quantité, mais jamais de la qualité. Or, moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des systèmes qui écrivent des romans, qui font des œuvres d'art. Oui, moi, c'est cette question-là qui peut-être me touche le plus. Google Traduction, au début, c'était très mauvais, maintenant, c'est presque parfait. Donc, il y a une qualité des productions cybernétiques qui nous questionne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une créativité des machines ? Moi, c'est peut-être le point le plus sensible pour moi.
Et quelle est votre réponse à cette...
Ma réponse, c'est oui. Enfin, ouais. J'ai voulu suivre l'hypothèse selon laquelle c'était possible et qu'un jour... On pourra avoir un livre de philosophie écrit par une machine, très sérieusement.
Oui, bien sûr.
Il y a eu un roman, donc récemment.
Mais on recevait des chercheurs de l'IRCAM il n'y a pas longtemps. Ouais. Hein, des machines composent des compositions, des partitions.
Alors,
accompagnent des musiciens.
Mon point de vue, si vous voulez, c'est est-ce que au lieu de s'enfermer frileusement, est-ce qu'on peut pas créer ensemble, c'est-à-dire est-ce que on peut pas mesurer le potentiel de créativité que tout ça nous donne et à quel et que ça peut
ensemble, c'est entre humains ou entre machines et humains.
Entre machines et humains. Ouais. Et est-ce qu'on ne peut pas, en quelque sorte, nous, inventer de nouvelles modalités de la création dans ce dialogue avec la machine ? Au lieu de dire, oh là là, mon Dieu, quelle horreur !
La domination de la machine par rapport à l'homme, c'est la fin de l'humanité ? Non.
Non.
Il y a un autre rapport
à... Vous avez vu la machine qui joue au Go, qui a été capable d'inventer des combinaisons absolument incroyables. Enfin, tout ça, c'est de la qualité, ce n'est pas de la quantité.
Alors, bien sûr, sur la créativité, on peut essayer de mieux comprendre certains aspects de la créativité avec les machines. Justement, il y a très nombreuses années, j'avais travaillé avec des étudiants sur la créativité musicale. On avait généré la ligne d'un joueur de basse dans un trio rythmique en jazz avec des machines en utilisant un modèle de mémoire. Mais je crois que ce qui est aussi important et qui va tout à fait dans le sens de vos propos, c'est que les humanités, à la fin du livre, je trouve que vous avez tout à fait raison, vous mettez en garde contre les dangers de réductionnisme avec les neurosciences. Vous dites, est-ce qu'il peut y avoir un dialogue entre les humanités et les neurosciences ? Mais je crois qu'il y a aussi un dialogue entre les humanités et l'informatique et l'intelligence artificielle. Et en particulier, il y a tout ce qu'on appelle les humanités numériques qui ouvrent un champ extrêmement important.
Qui sont encore trop peu présentes dans notre enseignement.
Et là aussi, c'est mettons-nous ensemble les différentes disciplines scientifiques.
Moi, je pense que l'éducation doit
être... Alors, moi, je travaille là-dessus, justement. Ouais. On a un laboratoire d'excellence avec les littéraires de la Sorbonne là-dessus pour approcher les textes. Et d'ailleurs, je rêve qu'on fasse ça en philosophie.
Ouais. Bien sûr.
Je crois que ça permettrait d'aller...
Mais c'est toujours ultra fructueux de mélanger les disciplines. Hein. À chaque fois que ça se passe, en tout cas, ça donne des choses tout à fait intéressantes. Dernière question de Julie. Qu'est-ce que vous pensez du projet Human Brain de Lausanne, Catherine Malabou? Quel est ce projet? Alors, on a 2 minutes pour...
Cartographier le cerveau humain.
Voilà.
On commence par cartographier les colonnes corticales de rats et on espère qu'un jour on pourra cartographier le cerveau humain.
C'est d'une complexité folle, non ? Avec ces milliards de neurones,
le but du jeu, c'est évidemment de créer un cerveau conscient. Hein. Ouais. Alors, Macram a été beaucoup critiqué. On a dit, est-ce que c'est de la science-fiction ou non ? Enfin, le projet est quand même relancé.
Créer un cerveau conscient.
Voilà.
Quel projet ?
L'émergence, tout d'un coup, la machine.
On est à la porte de la réussite ou pas ? On en est encore bien loin.
Non, je pense qu'on est de plus en plus près. Personnellement,
c'est vrai.
Je pense.
Vous avez une échéance à peu près ou pas ?
Kurzweil dit environ 2040. Je ne sais pas s'il a raison, mais à mon avis, ça va. Oui, c'est pas.
Mais ça servira à quoi ?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ouais. Bon, je pense qu'on est extrêmement loin.
Il nous reste qu'une minute. Alors, ça pourrait servir à quoi, finalement, ce cerveau artificiel?
Je ne sais pas très bien à quoi ça pourrait servir.
Ah, bah, c'est extraordinaire, mais je pense qu'on engage de l'argent là-dedans.
L'idée d'un cerveau artificiel, c'est un peu de confondre la carte et le territoire, d'une certaine façon, hein, de reproduire avec une machine ce qu'est notre cerveau. Alors, qu'il y ait des grands projets de modélisation des fonctions cognitives et du cerveau avec de l'intelligence artificielle, ça, oui, c'est formidable. Et ça permettra de faire beaucoup de progrès en neurosciences.
Bon, ben, on a encore d'autres discussions à venir ensemble, alors. Merci
beaucoup.
Et
peut-être aussi trouver le partenaire idéal.
Ah oui, ça pourrait
être le film.
C'est ça, exactement. Catherine Malabou, Métamorphose de l'intelligence, sous-titré Que faire de leur cerveau bleu, c'est au PUF. Et puis Jean-Gabriel Guénassia, Le mythe de la singularité au seuil. Et puis je signale également, toujours au PUF, Catherine Malabou, une réédition, Les nouveaux blessés de Freud à la neurologie, Penser les traumatismes contemporains. Et ça va ressortir le 6 septembre. Merci beaucoup à tous les deux.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et le retour du docteur avec ses bretelles rouges. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui se passe avec ce médicament, Levothyrox?
Quel bazar encore. Bon alors, ce médicament, ça contient la principale hormone sécrétée par la glande thyroïde, la lévothyroxine. Cette hormone, c'est notre régulateur énergétique. En cas de manque, nous sommes lents, mous, fatigués, déprimés, constipés, frileux. En cas d'excès, au contraire, notre cœur bat trop fort et trop vite, notre transit intestinal s'accélère et notre cerveau est survolté au point de péter un câble. Heureusement, notre glande thyroïde est parfaitement autorégulée et produit la quantité d'hormones nécessaire et suffisante. Mais si la thyroïde fonctionne mal ou a été enlevée, la prise quotidienne d'hormones sous forme de médicaments devient indispensable, le fameux Levothyrox.
Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement cet été?
Eh bien, les autorités sanitaires avaient demandé au laboratoire Merck, qui commercialise ce vieux médicament, de modifier sa composition pour éviter une altération du principe actif dans les comprimés. La quantité d'hormones est restée inchangée dans la nouvelle formule, mais les excipients, c'est-à-dire les composants inertes du comprimé, ont été changés. Alors, la sensibilité des malades de la thyroïde à de faibles variations de posologie étant bien connue, l'agence du médicament a demandé au laboratoire de réaliser des études de bioéquivalence comme on le fait pour certains médicaments génériques.
Alors, en quoi consistent ces études, Dominique?
C'est simple, vous prenez des volontaires rémunérés, vous leur donnez alternativement le nouveau et l'ancien médicament, vous leur faites des prises de sang régulièrement, vous comparez la diffusion du produit dans le sang pendant 3 jours et vous faites des courbes.
Et alors?
Eh bien alors, les résultats étaient si parfaits que l'agence du médicament s'en est contentée. Quasiment aucune différence entre la moyenne des concentrations sanguines mesurées avec l'ancien et le nouveau Levothyrox. En théorie, tout aurait donc dû bien se passer.
Oui, en théorie.
Parce qu'en pratique, ce sont 3 millions de malades de la thyroïde qui prennent ce médicament tous les jours, et non des volontaires indemnes de toute maladie. Et il suffit qu'1% d'entre eux soit sensible au changement de composition pour que 30 000 malades subissent des symptômes de manque ou d'excès d'hormones. Et c'est ce qui est arrivé. Et pour mieux sécuriser cette transition, il aurait fallu réaliser une étude complémentaire, cette fois chez les malades, en comparant non pas les taux sanguins du médicament, mais l'équilibre global du système hormonal thyroïdien, comme l'ont fait les Belges dans la même situation.
Ouais, c'est trop tard là ou pas?
Bah oui, malheureusement, tout est parti en vrille. Nous allons devoir rassurer ou gérer un par un tous nos patients sous Levothyrox. Même ceux qui n'avaient pas de problème avec le changement se sont affolés en lisant des articles alarmistes dans la presse. Et l'agence du médicament s'est distinguée comme d'habitude par son incapacité à communiquer correctement. Un exemple, mais absolument typique. Je leur ai demandé les références des fameuses études de biodisponibilité du médicament. Eh bien, après avoir été relancé, le service de presse m'a demandé préalablement ce que je comptais en faire. Et c'est finalement une patiente de l'association Vivre sans thyroïde, Béaté Barthès, qui me les a fournis. Voyez, on en est là maintenant.
Ouais, donc grosse boulette hein, quand même. Et vous voyez beaucoup de patients en ce moment qui
s'inquiètent. C'est terrible, tout le monde est affolé.
Merci beaucoup Dominique, en tout cas chronique à réécouter sur le site de la Tête au Carré puisque vous revenez en cette nouvelle saison avec votre chronique santé. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Philippe Duclos et Maximin Grand qui étaient à la technique. Thierry Lupin pour la programmation musicale de l'émission. Demain dans le club, nous parlerons de l'accord des mets et des vins, des mésaventures des scientifiques et des scientifiques en exil.